si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine. Donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 sur fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en cette émission du mardi 20 janvier 2026, nous vous diffusons l'enregistrement d'un débat intitulé « Banalisation du vocabulaire et des thématiques d'extrême droite dans les médias ». Débat qui avait lieu à la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau à Paris, à l'occasion d'un événement qui avait lieu le 29 novembre 2025 dernier, intitulé « Médias et extrême droite, construire les résistances ». Un thème toujours d'actualité en cette rentrée 2026. On vous laisse donc écouter cet enregistrement et on reviendra ensuite dans l'actualité des luttes.
En France, l'empire médiatique du milliardaire Bolloré ou la croisade identitaire du milliardaire Sterrin servent un même objectif, l'union des droites, brisant des digues avec la droite parlementaire et l'objectif d'une victoire politique en 2027. En juin 2025, d'ailleurs, les deux milliardaires ont ainsi initié ensemble le sommet des libertés au Casino de Paris avec toutes les chapelles de la droite et de l'extrême droite. Les médias sont en effet le passage obligé de la victoire, que ce soit en prenant leur contrôle capitalistique ou en infléchissant les discours qui sont tenus, en menaçant les voix dissidentes, les pressions viennent de toutes parts. Journalistes, syndicats et collectifs militants s'organisent pour résister, s'opposer à la concentration des médias, aux reprises en main éditoriales, à l'évolution des discours qui repeignent la réalité en dystopie haineuse. Et au sein de la société civile, les syndicats de lutte jouent un rôle essentiel dans cette bataille. Ils défendent un projet de société égalitaire, solidaire et émancipateur aux antipodes de celui prôné par l'extrême droite. Pour prendre conscience, s'informer, lutter et agir unitairement, le collectif Visa, en partenariat avec Acrimed et les syndicats de journalistes SNJ, SNJ-CGT, CFDT Journalistes, vous propose donc cette nouvelle journée de réflexion, médias et extrême droite, construire les résistances. Ce matin, nous allons donc débuter par une première table ronde de 10h à 11h15, banalisation du vocabulaire des thématiques d'extrême droite dans les médias. Enfin, je remercie le public ici présent et je vous souhaite une journée riche en échanges pour poser ensemble de nouveaux jalons des multiples résistances unitaires, syndicales et militantes antifascistes. Merci encore.
Le thème de notre table ronde, c'est construire des résistances et surtout, pour construire ces résistances, il faut comprendre les phénomènes. Donc l'idée, c'est de comprendre comment, en 2-3 décennies, on est passé d'un moment où l'extrême droite était absente, ou en tout cas relativement absente du champ médiatique, à un moment où l'extrême droite, non seulement est présente, mais dicte ses thèmes, dicte son vocabulaire, dicte ses formats. Donc, je vous présente nos trois intervenants. Donc, Pauline Perrenon, donc, tu fais partie de l'équipe d'Acrimed, donc Action Critique Média, qui est un observatoire des médias, et tu as notamment publié « Les médias contre la gauche » aux éditions Agone. Samuel Bourron, donc toi, tu es maître de conférence en sociologie à l'Université Paris-Dauphine, donc enseignant-chercheur, et tu es auteur de « Politiser la haine » aux éditions La Dispute. Et Sébastien Fontanelle, alors toi, tu es journaliste à Blast, donc un site d'information, pour ceux qui ne connaissent pas ce site d'information, indépendant. Alors toi, tu as écrit de nombreux livres, dont le dernier sur Tolkien, mais sinon tu as écrit « Macron et l'extrême droite du barrage au boulevard » ou un autre livre intitulé « Les empoisonneurs ». Donc une bibliographie très nourrie. Donc on va tout de suite commencer avec toi, Pauline.
Merci Emmanuel pour l'introduction. Je veux quand même dire en préambule que même si on ne va pas se focaliser là effectivement dans la table ronde sur Bolloré, l'idée c'est pas de minimiser Bolloré, c'est pas de minimiser ce qu'il représente, c'est pas de minimiser le problème Bolloré, ni mettre d'ailleurs un signe égal, ni faire comme si tous les affronts au pluralisme et d'ailleurs tout la façon de bafouer à peu près toutes les règles journalistiques se faisait chez Bolloré, pareil qu'ailleurs dans les médias dominants, quoi. L'idée, c'est vraiment de dire que, bon, déjà, l'empire Bolloré ne sort pas de nulle part et n'aurait pas pu se développer, d'ailleurs, sans des conditions assez favorables. La première des conditions favorables, quand même, qu'il faut citer, c'est un laisser-faire total des pouvoirs publics, quand même, sur le terrain de la concentration et de la propriété des médias. C'est-à-dire qu'on a une démission, quand même, totale, aucune régulation de la part des pouvoirs publics, ce qui a permis à Bolloré, mais d'ailleurs à évidemment d'autres industriels milliardaires, ce qui n'est pas moins problématique, de s'étendre à la fois, on va dire, à la faveur d'une concentration à la fois horizontale et verticale, c'est-à-dire de multiplier les possessions de médias et puis en plus d'acquérir d'autres structures sur la chaîne de production et de diffusion de l'information, les points relais, instituts de sondage, etc. etc. Voilà, et puis c'est quand même difficile aussi dans la période de ne pas citer la grande démission de l'ARCOM quand même sur cette question, en particulier aujourd'hui, puisqu'il y a quelques jours, l'ARCOM donnait raison quand même à CNews contre une enquête de RSF qui montrait par A plus B évidemment les manquements au pluralisme à l'antenne de CNews, avec notamment, je vous renvoie à cette enquête, mais une diffusion de la gauche au sens large, la nuit, plutôt que à période de grandes écoutes. Quoi. C'est quelque chose par ailleurs qui avait été déjà démontré. Arrêt sur Image avait fait l'enquête en 2021. C'est pas nouveau. Roch Olivier Mestre, il faut le citer quand même, en 2021. Selon des propos rapportés par Arrêt sur Image, disait, on l'interrogeait à l'époque sur justement CNews, est-ce que c'est un problème quand même, l'extrême droite comme ça, à l'antenne, en libre antenne, etc. Et il répondait, au fond, la démocratie, je le cite, hein, au fond, la démocratie, c'est la confrontation des idées. Le Conseil est très attentif à permettre cette expression dans une période où on parle de wokisme, de cancel culture. Il peut y avoir une forme d'appel à la censure.
Cette diversité fait la diversité du paysage. Rien ne vous empêche de zapper. Voilà. Voilà. 4 ans plus tard, la réaction ne nous étonne pas plus. Donc voilà, ça c'est quand même une première chose à noter. Ce sur quoi je voulais insister, c'est alors, d'une part sur un symptôme qui montre qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les médias Bolloré et le reste du paysage médiatique. Et donc un des symptômes, c'est la circulation sans entrave des chroniqueurs d'extrême droite, des experts, des journalistes d'extrême droite et plus largement de la famille des réactionnaires. C'est-à-dire que sur les plateaux Bolloré, qui consacrent évidemment, on aura l'occasion d'y revenir, les grands formats de bavardage, c'est des dispositifs qui sont vraiment gourmands en chroniqueurs, et quand on regarde vraiment qui est sur les plateaux de Bolloré, quels sont les journalistes, d'où ils viennent, etc., on remarque évidemment que l'Empire Bolloré recycle des journalistes qui occupent ou qui ont occupé des positions de pouvoir dans d'autres médias, dans des médias légitimes, entre guillemets, dans le champ journalistique, quoi. Et en l'occurrence, des médias qui, quand même, représentent la famille historique de la droite traditionnelle. Selon une étude du collectif Sleeping Giants, qui mène quand même des travaux vraiment remarquables de ce point de vue, entre janvier 2023 et avril 2024, le Figaro était le premier représenté parmi les journalistes à l'antenne de CNews, loin devant Europe 1, les journalistes d'Europe 1, du JDD, de Valeurs Actuelles, de Causeur, de Sud Radio, etc. Et évidemment devant aussi toute la fachosphère, quoi, Boulevard Voltaire, etc. Bon, on ne va pas les citer pour pas évidemment faire plus de pub que ça. Donc ça nous dit quand même quelque chose. Si vous regardez aujourd'hui la grille d'Europe 1, par exemple, c'est quand même intéressant de constater qu'à Europe 1, c'est le Figaro, encore une fois, qui détient littéralement le monopole de l'éditorial politique sur la radio. Donc je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire en termes de ligne éditoriale et d'influence. C'est Alexis Brézet, qui est quand même le directeur des rédactions. C'est Vincent Trémollet de Villers, directeur délégué. Et c'est Alexandre de Vecchio, rédacteur en chef du Figaro Vox. Figaro Vox, d'ailleurs, qui est l'organe par lequel c'est, on va dire, extrême-droitisé le Figaro. Donc voilà. Et par ailleurs, si on regarde plus largement l'antenne d'Europe 1, on se rend compte que vraiment les têtes d'affiche, mais y compris sur CNews, Laurence Ferrari, Vincent Hervouette, qui est en charge de toute l'information, on va dire, internationale, Pascal Pro, Dacier, c'est des gens qui viennent historiquement de la grande maison TF1-LCI. Et vous prenez Pierre de Villeneuve, Catherine Ney, El Kabash, Sonia Mabrouk, etc. C'est vraiment des historiques aussi de Europe 1 du temps de Lagardère, quoi. Donc voilà, c'est important de souligner ça pour montrer qu'il n'y a pas d'étanchéité, mais pour dire aussi que quand même un des phénomènes aujourd'hui à souligner, c'est vraiment la radicalisation en fait de la droite et plus largement la radicalisation des chefferies éditoriales en fait, qui sont sociologiquement solidaires des intérêts des classes dirigeantes.
Oui, alors, parce que justement, tu expliquais comment cette information circule par le biais des éditorialistes, par le biais des journalistes, hein, qui tournent entre médias Bolloré et médias mainstream. Mais il y a aussi quand même un point que tu abordes dans un des articles que tu viens de publier sur le mode de fabrication de l'info. En fait, l'information aujourd'hui, elle répond à des contraintes d'audimat, et donc cette course à l'audience pousse aussi à privilégier des thèmes un peu accrocheurs, putaclic, comme on peut les appeler aussi. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette évolution qui est quand même très centrale dans l'évolution des thèmes ?
Oui, bah, je pense que aussi Samuel pourra y revenir, mais grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est que on va dire que le poids des contraintes commerciales et le fait que, grosso modo, le champ journalistique soit de plus en plus sous domination économique, quoi, favorise l'extrême droite, parce que grosso modo c'est les formats low cost et une low costisation générale du débat public, et ça sacrifie tout ce qui favorise l'enquête sociale, le reportage, le temps long de l'information, etc. On le voit parce que, un des phénomènes qui est lié à ça, mais c'est vraiment la façon dont les préoccupations historiques et les thématiques de prédilection des droites au sens large, a fortiori de l'extrême droite, se sont non seulement, au cours des 40 dernières années, vraiment imposées et ont vraiment constitué un peu la centralité de l'agenda médiatique. C'est une première chose, mais la deuxième chose, c'est aussi comment les cadrages des droites en général de ces questions ont été normalisés. Ces thématiques, c'est évidemment l'immigration, l'insécurité, l'islam. Et donc là encore, bon, c'est vraiment une longue histoire, mais peut-être juste rappeler un chiffre quantitatif aussi pour dire que ça ne remonte pas à Bolloré ni à hier. Sur les 4 mois avant le second tour de 2002, l'insécurité représentait 987 sujets par semaine sur 23 chaînes nationales et 18 régionales à l'antenne, et c'était une augmentation de plus de 126% en fait de ces thématiques, alors que on n'avait pas constaté d'augmentation dans le réel, quoi.
Alors, juste un point, parce que et quand tu disais, voilà, dans cette fabrication de l'information, il y a aussi le rôle des chaînes en continu qui font un espèce de buzz en permanence, et là aussi, ça fait caisse de résonance. Voilà, on voit, et comme tu disais, dans ce contexte-là, l'extrême droite est comme un poisson dans l'eau. En tout cas, voilà, ce que je retiens dans ce que tu disais, voilà, c'est qu'il n'y a plus d'étanchéité entre les médias d'opinion Bolloré et les médias dits mainstream. Tu l'as bien expliqué.
On reçoit tout à l'heure le président du syndicat des journalistes palestiniens. Je voulais quand même dire un mot sur cette question, parce que vu la thématique qui nous occupe, c'est quand même pas une petite affaire. Dire que la question palestinienne, c'est ce qu'on documente dans Acrimed depuis là 2 ans, ça a vraiment été un symptôme de notre point de vue et un accélérateur de l'extrême droitisation du paysage médiatique, on pourrait même dire en l'occurrence de la fascisation, tant du point de vue du traitement de l'information internationale que du point de vue du traitement des différents positionnements, des partis politiques, des mobilisations, etc. etc.
Donc, alors Sébastien, donc, Pauline nous l'a évoqué, le rôle des journalistes. Parce que dans le fait qu'il y ait diffusion des thèmes, du vocabulaire, il faut aussi interroger notre rôle en tant que journaliste, leur manière de traiter l'information.
Je voulais réinsister sur le fait que, littéralement, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la presse d'extrême droite sans trop de difficultés ne se limite absolument pas aux médias et aux journaux. En l'occurrence, moi, je vais parler de la presse écrite plus spécialement. Du groupe Bolloré, ça concerne en effet le Figaro, ça concerne aussi un hebdomadaire comme Le Point, qui est encore considéré dans certains endroits comme légitime. Il y a une expérience très intéressante à faire qui consiste à aller regarder ce que l'ancien directeur et actuel éditorialiste du Point, Franz-Olivier Gisbert, poste plusieurs fois par jour sur le réseau social d'Elon Musk. C'est tout à fait intéressant. Il y a une obsession entre deux vibrants hommages à la première ministre post-fasciste italienne. Il y a une obsession anti-immigrés, anti-islam qui est quand même un peu compliquée pour le moins. Et je répète ça parce que je voudrais aussi insister au passage sur le point que le Figaro, surtout le Figaro, qui est le journal le plus aidé de la presse française en fait, le Point, c'est des journaux qui sont très lourdement subventionnés par l'État au titre des aides publiques à la presse. Je pense que pour la gauche, pour quiconque s'intéresse un peu à la critique des médias, ça va devenir intéressant et peut-être un peu urgent de réfléchir à cette question et de se demander, par exemple, ce que finance réellement ou ce que sponsorise réellement les 10 millions et quelques d'euros qui sont distribués chaque année au Figaro. Pour ne citer que ce titre, qui, encore une fois, avec Le Monde, il se tire un peu la bourre, si vous me passez l'expression, d'une année à l'autre, mais c'est les deux journaux les plus subventionnés. On peut considérer que l'État et les contribuables, à leur insu, sponsorisent une propagande d'extrême droite quotidienne et plus que quotidienne, constante, avec Internet maintenant. Voilà, je voulais dire ça d'abord. Et puis surtout, je voulais un petit peu insister sur le fait que l'extrême droitisation et la banalisation des discours l'extrême droite pour aller vite dans le débat public, dans le paysage, dans l'époque. Ça ne se limite pas non plus à cette presse réactionnaire étendue dont on vient de parler, de Bolloré au Point, au Figaro, etc., etc. Et je trouve que c'est important, depuis la gauche ou depuis un point de vue un petit peu contrastant, de s'intéresser au fait que des journaux dont Pauline disait très justement qu'ils sont considérés encore aujourd'hui comme très légitimes, et en tout cas comme ne pouvant pas être catalogués à droite ou à l'extrême droite, contribuent eux aussi très activement à l'extrême droitisation. Et il y a évidemment un cas qui moi me paraît à la fois intéressant et très symptomatique, c'est celui du Monde, qui est encore considéré comme le journal de référence, qui lui-même, fort de cette image et de cette étiquette, se considère encore un peu comme ce qu'on pourrait appeler l'arbitre des élégances journalistiques, en fait, au quotidien. Et Le Monde contribue, à mon avis, très considérablement, à sa manière, qui est beaucoup plus contournée, détournée, d'aucuns diraient sournoise, mais n'allons pas trop loin, à la radicalisation droitière du paysage médiatique. Il y a un exemple qui me fascine depuis plusieurs années, c'est que Le Monde régulièrement produit des éditoriaux pour dire attention, l'extrême droite arrive, faut faire super attention. Et puis la semaine d'après ou celle d'après, il y a un éditorial pour dire attention, la droite dit presque la même chose, la droite dite républicaine dit presque la même chose que l'extrême droite. Et ça alterne régulièrement. Dans le monde réel, la droite républicaine ne dit pas presque exactement la même chose que l'extrême droite. Ça fait des années qu'elle dit exactement la même chose, mais pour autant, Le Monde ne l'a jamais considérée comme une extrême droite. Et il continue à faire cette distinction entre une droite qui serait en somme fréquentable et une extrême droite qui ne le serait pas, alors que les deux sont littéralement obsédés par l'immigration, par l'islam et par l'insécurité, systématiquement amalgamés dans un grand tout. Et pourquoi je vous dis ça, pourquoi j'insiste sur ce refus du Monde de considérer que cette droite est une extrême droite? Parce que dans le même temps, plus particulièrement depuis 2 ans, mais ça remonte en fait un peu au-delà, il y a un autre parti que Le Monde n'hésite jamais à traiter d'extrémiste, c'est la France insoumise. Et ça fait 5 ans que Le Monde, mais quand je vous dis toutes les semaines, je crois que j'exagère à peine, publie soit des éditoriaux, soit des chroniques, soit des articles qui parlent de ce qu'il appelle les extrêmes. La locution « les extrêmes » est plus que récurrente dans les pages du Monde. Et les extrêmes, c'est quoi? C'est d'un côté la France insoumise et de l'autre côté le Rassemblement national. On voit bien le problème. La France insoumise, on en pense qu'on veut par ailleurs, mais ce n'est pas un parti d'extrême gauche, c'est un parti qui en est à peu près là où en était le PS dans les années 1980. Et c'est un parti antiraciste, alors que l'extrême droite est pour le coup réellement une extrême droite. Et bien évidemment, en parlant des extrêmes et en intégrant la gauche insoumise dans cet ensemble, on relativise et de fait on minimise la dangerosité réelle de l'extrême droite. Et ça, c'est Le Monde, mais c'est aussi Libération, etc., etc. Et ça me semble être tout à fait au moins aussi dangereux en réalité que les papiers ouvertement xénophobes du Figaro ou de la presse de droite et d'extrême droite, à mon avis. Je trouve que c'est important d'en parler. Et je trouve intéressant de regarder cette alternance d'éditos dénonçant les extrêmes et d'éditos disant attention, voilà l'extrême droite, parce qu'en réalité, Le Monde passe pas mal de temps à nourrir les effets dont il déplore les causes quand il fait ça. Voilà. Pardon ?
Marianne.
Non, mais bien sûr, mais Marianne, dans mon esprit, c'est pas... Marianne, c'est déjà... Enfin, moi, personnellement, je le classe quand même déjà très, très, très loin à droite, hein, quand même, Marianne.
On prendra les questions de la salle après. Surtout, réservez vos questions.
Je prends un dernier exemple de ça, parce qu'il est tout récent et il m'a frappé. La semaine dernière encore, Le Monde a publié une chronique d'un de ses chroniqueurs historiques, Philippe Bernard, dont le titre, juste le titre, était à lui seul un programme. C'était « Si la gauche veut regagner les classes populaires, elle ne peut plus faire l'impasse sur l'immigration. Fermez les guillemets. Et ça, je veux dire, c'est typiquement un titre qui participe activement à la droitisation générale. Accessoirement, ça fait 30 ans que la gauche s'empare de la question de l'immigration, comme il dit, en allant systématiquement plus loin sur le terrain de la droite et de l'extrême droite. Et deuxièmement, cette exhortation à opposer pour la millionième fois ce qui relèverait des luttes sociales et ce qui relèverait de l'immigration, que ce chroniqueur amalgame évidemment avec l'insécurité, etc. C'est, voilà. En gros, c'est un papier qu'on pourrait lire dans le Figaro, voire dans Valeurs Actuelles, mais il est dans le monde. Voilà, j'ai fini.
Non, mais parce que, attends, non, tu n'as pas fini, parce qu'on évoquait donc le rôle des journalistes et dans ce glissement, mais quand même, il y a un point qu'il faut aujourd'hui regarder, c'est ces nouvelles écoles de journalisme aux mains de ce terrain, du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin. Donc, l'extrême droite met en place un système de formation des journalistes pour carrément avoir des gens à leurs mains qui sont déjà convaincus des thèses. Est-ce qu'on peut dire un mot quand même? Parce qu'il y a l'Institut libre du journalisme notamment. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération de journalistes qui vont arriver, qui vont déjà être complètement lobotomisés, ou en tout cas formés à défendre ces thèses. Comment tu vois les choses?
D'une part, ça confirme que l'extrême droite, et notamment Bolloré pour le coup,
bien sûr, le
est occupée à construire effectivement un large écosystème qui concerne les médias, finalement de la production des journalistes, si j'ose dire, à la production de journaux et de contenu audiovisuel. On pourrait parler de l'édition, etc. Après, moi je relativise un peu ce truc-là, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on se dise que par contraste, les écoles de journalistes étaient vachement mieux avant. Les écoles de journalistes telles qu'elles existaient avant d'être achetées par Bolloré, c'est quand même elles qui ont produit les journalistes qui ont activement participé depuis 20 ou 30 ans à l'extrême droitisation dont on parle. Donc, comment dire, je pense pas que ces écoles aient besoin d'être sous pavillon Bolloré pour être éventuellement, évidemment je vais pas monter trop en généralité, mais des usines à fabriquer des fabricants de l'opinion.
Les guerres, y'a du monde pour les guider, et vite y'a personne pour les faire. Je peux me cramer pour mes idées libres, je peux me cramer pour mes frères. Le doigt en l'air pour les sistras, c'est news dans l'angle mort. Je coule ces tremblements, fuck le rassemblement. Un pays de facettes, le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7. Faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit des cités, ma gueule, on vote contre les ports. Jordan, t'es mort. Jordan, t'es mort.
Y'a quoi dans le coffre de la Benz? Y'a quoi dans la poche de ma veste? Tout ça à cause de ma face. Mange un contre de faces. Pour les petits frères, on s'inquiète. Ils se font tamponner en veste. Moi, veulent pas la paix, mais la guerre. Pour ça que les riches ne restent.
Y'a, j'propose un octogone à Bardella. Ferme les frontières, mais la dope remontera de Marbella. Quand même, donc, ouais, c'est pour ça que j'ai les quêtes. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai la peine. Donc, tous les jours, fuck le RN. Tu sais déjà, c'est la guerre.
Pas différent, mais faut différent. Pas différent, mais faut différencier. Lève-toi, va voter, faut pas rester assis. Voir que c'est nous la France, c'est bâtarisson. Voir que c'est nous la France, c'est bâtarisson. Si tes pensées racistes, va les mettre dans ton cul. Ils vont péter un câble, je vais voter à gauche. Mais c'est pas que pour la Lega du Cana. Lega du Cana, ils ont tenté de nous sous-informer. Fais pas genre, t'as pas remarqué là. Je fais la passe que vers la gauche, qu'elle soit en croque, soit en Margiela. Je suis pas le politicien, genre je fais pas trop le Mandela. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on vote pas Marine et baise la mer à Bardella.
Pour être honnête, moi j'ai jamais voté. Je suis de l'autre côté, les gars, je vote pas. Mais bon, je suis très étonné, leur programme me fait pas rigoler. Allez niquer vos mères, Marine et Bardella. Bientôt je me barre de là. Le raciste en pose quand sur la compo, il va marquer les blases de grisou quand t'es Barcola. Anti-RN, façon tu les reconnais. Des affiches déchirées devant le collège. Mino inconscient, j'insultais le FN, mais je comprenais pas. C'était quoi le manège? Donc tout le monde veut faire le ménage. La France, tu l'aimes ou alors dégage. Les slogans supportés par des lâches. J'suis qu'un porte-parole des mecs de mon âge.
Y'a eu Kerry avant moi, Hero King squat avant lui. Après moi, qui viendra? Après moi, c'est pas fini. J'rappe pour les quartiers de Marseille et les banlieues de Paname. J'rappe pour tous ceux qu'on oublie. Dans les villages, les campagnes, soit tu l'aimes, soit tu la quittes. C'est souvent ce qu'on m'a dit. Tu peux demander à mon ex aujourd'hui qui est la plus triste. Les gars, faut se réveiller, quitte à mettre ses deux doigts dans la prise. Parce que l'histoire se répète, ça sent le crâne, mais dans la brise.
Moi je connais rien de tout ça. Igor, hein, je suis de la salle, gênez-moi. Donc je vais pas me gêner, boy. Déterré, Louis. si vous voulez savoir pourquoi on en est là. Déterré et Louis, si vous voulez savoir pourquoi on en est là. Leur projet c'est de nous faire croire que c'est eux les bons. Leur projet c'est de nous faire croire qu'on est dans le faux. Je comprends rien aux histoires de toutes ces élections, mais je sais que l'extrême droite se sert de ma déconnexion. Donc anti-RN.
Faut choisir son corps, nickel Hala. Mais comme faut voter, user. En bas du bloc, on nique le Hala. Mais comme on va se rassembler, voter comme quand t'achètes les albums. Faut faire les causes contre les fachos, Ascom. Faut pas se laisser duper, c'est nous contre eux. Si ça te fait du bien, nique leur jeu. Faut s'intéresser, c'est ça le karaté.
Je connais pas Le Pen, Marine, j'en connais une qui la pétale soir avec ses big narines. Si les fachos passent, je vais sortir avec un big calibre sur les canines. Les petits niquent leur vie pour un peu dopamine. Ils nous vendent des belles paroles, c'est cellophane. L'intérieur de leur âme est fané, ils méritent de canner. J'suis dans l'allée, j'revends ce qui fait planer. J'me suis nourri tout seul comme un grand garçon. Fuck, c'est tous des francs-maçons.
Je me suis endormi le 29, calé devant BFM. Je me suis réveillé le 8 juillet, j'entends plus aucun bruit de crosse dans la tête, comme si j'avais voté Le Pen. Y'a plus nos darons, donc y'a plus du zin-zin. On n'est pas bon qu'à amener la zin-zin. J'ai la dalle, mais y'a plus de craie. Si je mourrai, y'a plus de mosquée. Ça veut sauter la mixité. Sans dignité, ils oublient que des gens à gagner la coupe du monde avec des fils d'immigrés. Des valeurs qui se perdent, c'est le bordel. Je suis obligé de donner mon avis. Ceux qui veulent revoyer les darblés, dis-lui de commencer par Tanguy David. Le RN veut pas que je traîne avec le pote Maxime que je connais depuis la récré. J'ai fait un cauchemar, j'ai oublié d'aller voter.
Et vous êtes toujours dans l'actualité des luttes et nous vous diffusons le débat qui avait lieu au sein de l'événement Média et Extrême Droite, Construire les Résistances, intitulé « Banalisation du vocabulaire et des thématiques d'extrême droite dans les médias ».
Samuel, moi j'aimerais que tu nous parles du rôle des faits divers, parce que tu as écrit un article absolument passionnant qui s'appelle « Les faits divers, industrie médiatique et armes idéologiques pour l'extrême droite ». Et moi, j'ai été vraiment très intéressée par ton analyse, c'est-à-dire comment les faits divers servent de cheval de Troie aux idées d'extrême droite dans l'opinion publique. J'aimerais que tu nous parles de ce point en premier, s'il te plaît.
Oui, effectivement, pour parler de ça, il faut que je vous parle un petit peu de ce qu'on appelle l'extrême droite identitaire, c'est-à-dire extra-parlementaire, ou en tout cas qui n'essaie pas directement de prendre le pouvoir par les urnes, et qui va essayer de propager ses idées dans l'espace public. Moi, j'ai enquêté sur cette extrême droite il y a longtemps maintenant, hein, plutôt au début des années 2010, par immersion, et ça m'a permis de comprendre de l'intérieur comment ils s'y prenaient pour se mobiliser, pour essayer de mener ce qu'on appelle parfois la bataille des idées. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au début des années 2010 et 2000-2010, les identitaires, c'est pas grand-chose, quoi, en fait. Alors, ça, le groupe qui deviendra Génération Identitaire, au départ, il s'appelle Unité Radicale. Il y a un militant, Maxime Brunery, qui a essayé d'assassiner Jacques Chirac, alors président. Ils sont complètement marginalisés sur le plan politique. Ils n'ont pas tant de militants que ça, pas de moyens. Ils essaient de se présenter à des élections locales, ça ne marche pas du tout. Et en fait, comme beaucoup de groupuscules de l'époque, ils n'arrivent pas à se faire une place à l'ombre du Front National, qui a un monopole à l'extrême droite. Et par contre, ils vont essayer de faire des petites actions qu'on appelle d'agit-prop, agitation et propagande, quoi. Moi, j'assiste par exemple à une action, au débrief d'une action, où, parmi d'autres, hein, ils envahissent un quick qui distribue des plats halal à Villeurbanne. Ils se déguisent avec des masques de cochon, ils se filment, ils postent la vidéo sur les réseaux sociaux, et ils se rendent compte que ça marche assez bien. C'est-à-dire que le nombre de vues est assez conséquent, c'est repris par la presse locale et en partie par la presse nationale, et ils sont assez satisfaits de ça. Ils se rendent compte que, bah, en n'étant pas beaucoup, en ayant peu de moyens, ils arrivent quand même à ce que leurs actions résonnent dans l'espace public, à ce que certains mots d'ordre commencent à être repris par les journalistes, etc. Et c'est pour ça qu'ils vont vraiment concentrer leur stratégie vers ce qu'on appelle la métapolitique, voilà, rendre consensuelles leurs idées, saturer l'espace public, etc. Bon, il y a Génération Identitaire, mais je pourrais vous parler d'autres groupes identitaires comme Némésis. Ce sont aussi des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ce sont des éditorialistes, bon, toute cette nébuleuse identitaire qui va préparer le terrain à la victoire électorale du Rassemblement National ou d'un autre parti d'extrême droite. Moi, la question que je me suis posée ensuite dans mon enquête, c'est comment expliquer du coup que ça marche, quoi, que ces actions-là, elles résonnent dans l'espace public. Et pour ça, il faut avoir en tête les transformations du champ journalistique justement dans ces années-là où c'est des choses qui avaient déjà été observées hein, précédemment par Pierre Bourdieu, par d'autres, notamment le déplacement du centre de gravité journalistique vers l'audiovisuel et notamment vers l'audiovisuel privé avec une concurrence croissante entre chaînes de télévision pour capter l'audience parce que c'est au centre de leur économie. L'arrivée des réseaux sociaux, mais aussi des chaînes d'infos en continu, qui vont faire qu'ils vont vraiment rechercher une audience maximale. Et un des genres journalistiques qui a la réputation de faire de l'audience, c'est notamment les faits divers, qui vraiment connaît dans l'audiovisuel privé, notamment dans les chaînes d'infos en continu, une croissance exponentielle, et qui vont faire que finalement, ce que je décrivais là, les actions d'agitprop, des identitaires, mais aussi certains faits divers qui peuvent être repris par l'extrême droite, sont plutôt bien perçus par certains journalistes de ces chaînes. C'est-à-dire que vous vous rappelez peut-être du meurtre de Lola, par exemple, ou de Thomas à Crépole, Philippines à Paris, un an plus tard. 2022, 2023, 2024, c'est par exemple des cas qui sont assez intéressants à étudier parce que ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres faits divers dans le même temps qui ont exactement la même structure dont on aurait pu autant parler mais qui ne connaissent pas la même carrière médiatique. Et si ça marche, c'est aussi parce que l'extrême droite parvient à instrumentaliser ces faits divers, à faire en sorte que ce soit repris, capté, notamment, évidemment, par les médias d'extrême droite. Et c'est ça qui va leur permettre, en tout cas, de saturer l'espace public. C'est ce qu'on peut appeler, en tout cas, un cadrage de l'information qui va marcher. Par exemple, j'ai fait des entretiens avec des programmateurs d'émissions de plateau aussi, qui me disent les sujets d'extrême droite, ou le fait d'inviter des personnalités d'extrême droite, ça cartonne en termes d'audience. Pour nous, en fait, l'extrême droite, ce sont des bons clients. Pour moi, ça explique que, en fait, effectivement, on l'a dit, il y a des passages idéologiques de médias à d'autres. Moi, dans Politiser la haine, je parle des questions de laïcité, par exemple, comment ça circule à travers des alliances politiques sur ces sujets-là. Mais c'est aussi que, ben, pour une partie des médias, encore une fois, l'extrême droite, elle est assez attractive sur le plan journalistique, notamment pour ces médias qui sont très subordonnés à des logiques commerciales, à des logiques d'audience. Et ça a des effets très délétères parce que on a des sujets comme l'immigration, comme l'insécurité, par exemple, dont l'extrême droite est vraiment propriétaire et qui accule en fait une gauche qui est par ailleurs de plus en plus dénigrée, stigmatisée, et qui nourrit l'idée que ben finalement, aujourd'hui, il y aurait vraiment une demande de répondre à un problème d'immigration. Voilà, on en vient à l'idée que finalement, il faut se positionner sur les problèmes tels qu'ils ont été définis par l'extrême droite. C'est exactement ce que disait Sébastien Fontenelle sur le cas de l'édito de Philippe Bernard du 23 novembre. Au Monde et qui reprend la lignée un peu Manuel Valls donc de l'idée que bah, en fait aujourd'hui le vrai peuple en fait il s'intéresse surtout à des questions d'immigration, d'identité, etc. Et donc il faut aller sur ce terrain de l'extrême droite pour capter en tout cas cette demande. C'est complètement absurde, c'est quelque chose qui est très bien travaillé en sciences politiques d'une certaine façon. Si on n'arrive pas à définir nous-mêmes les problèmes sociaux historique de la gauche, de justice sociale, d'inégalité sociale notamment, En fait, on a perdu en quelque sorte la bataille des idées. On ne peut pas gagner, en tout cas, une bataille lorsque c'est l'adversaire qui parvient à définir, à construire les problèmes publics.
Je voudrais que tu nous parles maintenant de l'enquête, de l'étude que tu mènes actuellement. Le thème de ton étude, c'est auprès de journalistes qui font carrière dans les médias d'opinion et d'extrême droite. Mais pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet? Et comment est-ce qu'ils vivent le fait de bosser clairement pour des médias d'extrême droite?
Oui, alors c'est vrai que là, on parle beaucoup de la façon dont les cadrages d'extrême droite circulent dans l'espace médiatique, et c'est super important, mais on peut revenir aussi sur des choses qui paraissent assez basiques, quoi. C'est que, en fait, une des forces aussi de Bolloré, notamment, spécifiquement, mais aussi d'autres, c'est tout simplement que, ben, en fait, il est capable de faire manger une partie des journalistes, quoi. C'est-à-dire de façon très économique, c'est un faiseur de carrière, en fait. Et je ne parle pas que de Pascal Praud ou d'Hanouna, mais de journalistes qui sont en début de carrière. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la profession de journaliste, elle a été extrêmement précarisée ces 10-15 dernières années. Que maintenant l'entrée par la pige, c'est devenu complètement la norme, et que contrairement en tout cas à ce à quoi je m'attendais, les jeunes journalistes qui travaillent par exemple pour CNews sont pas tous d'extrême droite, au sens ils n'ont pas forcément de socialisation militante à l'extrême droite, ou même d'opinion très constituée, de sympathie très poussée pour cette famille-là. Mais par contre, pour certains d'entre eux, ils sont arrivés là parce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs, quoi. Mais quand on regarde, par exemple, du côté des formations au journalisme reconnues, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont envie de travailler pour ces médias-là. C'est pas l'idéal journalistique d'aller vers... Pas seulement parce que c'est d'extrême droite, mais aussi parce que c'est du mauvais journalisme, en gros. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à CNews, par exemple, il y a un turnover hyper important. La rédaction, elle est super jeune, et ce qui fait qu'on y monte assez vite. C'est-à-dire qu'au bout, assez rapidement, vous pouvez arriver à faire du direct, à couvrir des sujets d'ampleur nationale, là où il faudrait attendre beaucoup plus longtemps si vous êtes à France Télévisions. Donc ça veut dire que la file d'attente, elle est plus courte. On se retrouve dans quelque chose qui est assez analogue en politique, où au Front National, par exemple, il y a Front National devenu Rassemblement National, il y a un manque historique de cadres. Ils sont en permanence en train de rechercher des cadres, ils ont du mal à trouver des personnes formées. Voilà, on l'avait vu aux dernières législatives, quoi, c'est une catastrophe. Enfin, ben, d'une certaine façon, c'est un peu pareil à l'extrême droite. Il y a un déficit. Donc ils vont beaucoup plus puiser au sein des écoles de journalisme non reconnues, privées. Mais aussi, c'est pour ça ils essayent de construire leur propre écosystème informationnel, notamment en rachetant ou en créant des écoles de journalisme. C'est vraiment ça la logique. C'est même l'histoire des écoles de journalisme non reconnues, d'essayer de répondre à une demande autre, historiquement, hein, presse magazine, petits médias beaucoup plus dominés, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer là-dessus et qui n'est pas négligeable. C'est aussi, effectivement, c'est non seulement la circulation des cadrages d'extrême droite, mais aussi la façon dont, matériellement, Bolloré notamment et d'autres essayent de, tout simplement, grignoter la profession de journaliste. Et c'est assez analogue à ce que fait Stérin, par exemple, dans le monde de la culture, où en fait, bah, il fait manger des gens et à un moment donné, il agrège des personnes qui ne sont pas forcément positionnées directement à l'extrême droite.
Quelle hypothèse tu cherchais à déterminer quand tu as fait cette étude?
Eh bien, moi, c'était vraiment mon intrigue de départ, c'était vraiment d'où viennent, en tout cas, les journalistes qui travaillent pour CNews ou pour d'autres chaînes d'infos en continu, qui sont sociologiquement, est-ce qu'ils sont, comment ils sont politisés, c'est quoi leur carrière. Voilà, c'est des questions assez classiques par entretien. Et c'est vrai que j'étais surpris par le fait que, en fait, travailler par exemple à CNews, c'est pas un stigmate dans le champ journalistique, pour faire carrière, en fait. C'est-à-dire que ce sont des journalistes qui peuvent complètement commencer à CNews et après aller vers BFM, aller vers Le Figaro. Ils vont pas être blacklistés, quoi, en fait. Et même, en fait, je prends l'exemple de CNews que je connais assez bien. En fait, ils sont très jeunes, mais ils sont aussi très précaires. Il y a beaucoup de pigistes. Et donc, ce sont des pigistes qui, pour boucler leur fin de mois, vont travailler en même temps, en fait, pour CNews, pour BFM, pour France Info. Ils font les mêmes contenus, quasiment. Et c'est assez étonnant, en fait, comment, par en bas, la porosité entre rédaction, elle est extrêmement forte, en fait. Et même sur une rédaction comme CNews, finalement, vous apprenez des compétences journalistiques qui sont complètement transférables ailleurs. Savoir travailler vite, acquérir un bagage technique dans l'audiovisuel, c'est aussi savoir montrer une certaine docilité vis-à-vis de la hiérarchie. C'est aussi très vertical à CNews. Tout ça, ce sont des compétences qui peuvent tout à fait être appréciées ailleurs, en fait.
J'aimerais quand même vous entendre tous les trois sur le fait, puisque le thème de cette journée, c'est construire des résistances. Alors là, on a vu comment le champ, à la fois le vocabulaire, les thèmes de l'extrême droite se sont diffusés. Mais du coup, quelle résistance construire vis-à-vis de cette vague ?
En fait, c'est ce que veut l'extrême droite, c'est aussi qu'on adhère à son récit qu'ils ont gagné la bataille culturelle, en fait. Il me semble que c'est pas du tout que c'est pas du tout acquis. Il me semble qu'il y a quand même pas mal de travaux là du côté de la science politique qui montrent qu'il y a effectivement une droitisation. On a tous les trois expliqué, mais qui est une droitisation qui passe plutôt par le haut, quoi. Pauline disait, c'est beaucoup une radicalisation, par exemple, des chefferies éditoriales. Sébastien Fontenelle parlait des éditorialistes du Monde, en fait. On se retrouve avec des élites des partis et des médias qui sont beaucoup plus à droite, en fait, que la population, quoi. Beaucoup plus à droite, quoi, en fait, qui s'alignent effectivement, notamment sur un agenda d'extrême droite. Mais quand on regarde plus en bas, la population générale, mais aussi les simples journalistes ou les bases militantes et syndicales, c'est pas du tout acquise. Et il y a une résistance à l'extrême droite qui me semble bien plus forte que ce que pourrait laisser penser la visibilité médiatique de ça. Et si je prends le cas des législatives, quand il y a une capacité de mobilisation, on voit que le terrain n'est pas du tout acquis encore à l'extrême droite. Et il y a beaucoup de choses qui sont encore du côté de la gauche, notamment l'idéal de vérité, une forme de rigueur intellectuelle. Une façon de le dire, c'est que de façon beaucoup plus directe, de dire qu'ils n'ont pas gagné la bataille culturelle des idées, c'est qu'au fond, ils ont encore peu de légitimité culturelle. Moi, quand j'enquêtais sur les identitaires, ils essayaient, par exemple, de faire de la musique, du cinéma, etc. Je veux dire, ils sont nuls encore. C'est pas quelque chose qu'ils savent très bien faire. D'une certaine façon, je l'ai dit, ils sont nuls en journalisme aussi, en fait. Je veux dire, quand les têtes de gondole, c'est Eugénie Bastier, Pascal Pro ou Hanouna, on est quand même pas sur le prix Albert Londres, quoi, encore.
Pauline, sur nos capacités à construire des résistances, qu'est-ce que tu dirais ?
Moi, je dirais, faut faire rapide, j'imagine, parce qu'après, il y aura les questions, mais je dirais ce que rappelle Acrimed depuis 30 ans, bientôt maintenant, donc, c'est-à-dire faire vraiment des médias une question politique, et donc il faut réfléchir politiquement à des propositions qui ciblent la concentration, qui ciblent la propriété capitalistique des médias, puisque on l'a vu dans nos trois interventions, en réalité, il faut arriver à défaire vraiment des mécanismes et l'emprise commerciale qui est ce sur quoi prospère quand même beaucoup l'extrême droite. Donc il y a beaucoup de choses à penser en termes de, voilà, de transformation en fait, des médias. Sébastien parlait aussi des aides à la presse. On a travaillé beaucoup aussi à Acrimed sur le statut juridique des rédactions, le, voilà, redonner un peu le pouvoir aux journalistes. Il y a plein de choses à penser de ce point de vue-là. Et puis, politiser la question des médias, ça veut aussi, c'est aussi dire... interpeller la gauche au sens large, qu'elle soit sociale, politique, syndicale, enfin partisane, syndicale, sociale, sur son rapport aux médias. Voilà, essayer de pas subir le rythme qui nous est imposé. Je repensais à ce que tu disais, parce que dans l'étude de RSF dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas une conclusion qui a beaucoup intéressé médiatiquement, mais pourtant elle est quand même intéressante, on remarquait, toute chaîne d'information confondue, que tous additionnés, la santé, l'écologie, le pouvoir d'achat, c'est RSF qui parle comme ça, l'éducation, occupe moins de 4% du temps d'antenne sur l'ensemble des chaînes. Voilà, quand tu disais, en fait, de quoi on parle médiatiquement, de quoi, en fait, on assiste en permanence, quand on regarde les médias, quand on lit grosso modo la presse, je le fais à gros traits, mais au théâtre des droites, en fait, au sens large, qui discutent entre elles, quoi. Et donc, il y a vraiment une dépossession des thématiques fortes sur lesquelles doit prospérer la gauche au sens large, quoi. Donc, en fait, il faut aussi pouvoir réimposer d'autres questions, discuter d'autres choses, au-delà, d'imposer nos cadrage sur un certain nombre de sujets, quoi. Donc il y a ça, à réfléchir, à mon avis.
Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je parle d'une radio qui s'appelle Fréquence Paris Pluriel. Et moi, je voudrais savoir un petit peu quel est le... Je me prénomme Joël. Je voudrais savoir un petit peu quel est le... Comment sont considérés les radios associatives dans cette question-là et les journaux associatifs, parce que là, on a parlé effectivement de gens qui sont déjà installés hein, dans le paysage audiovisuel. Mais effectivement, le monde associatif aujourd'hui aussi est concerné. Elle est concernée parce qu'il y a des coupes de l'État. Il faut le rappeler aussi, si aujourd'hui il y a cette situation-là, c'est que les gouvernements et les États qui se sont succédés ont fait des coupes drastiques dans les moyens de communication. Moi, je vais donner cette question-là, par exemple, sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui concerne les radios associatives. C'est en diminution. Et donc, c'est aussi la question, aujourd'hui, dans ce paysage-là, puisqu'on a parlé de tous ces gens-là, comment sont considérés les médias associatifs, que ce soit radio ou journaux.
Moi, je veux bien dire un tout petit mot là-dessus, mais qui est pas. Je me sens pas spécialement compétent pour parler de ça. Ça m'évoque juste le fait que tout à l'heure, on évoquait les aides publiques à la presse. Quand tu parles d'une baisse qui est pas d'ailleurs limitée aux médias, les aides publiques au monde associatif, c'est une cata. Où qu'on porte le regard, c'est des trucs dont la gauche pourrait s'emparer. Ça rejoint aussi un peu la question des pigistes. C'est quand même des sommes phénoménales, hein, les aides publiques à la presse. Je veux dire, il y a aucun contrôle là-dessus. Il est très très précisément documenté depuis très longtemps, depuis un rapport de la Cour des comptes notamment, très volumineux, très complet et déjà assez ancien, qui a aucun contrôle. Ça rejoint ce qu'on a appris beaucoup plus récemment sur les aides publiques aux entreprises, en fait, qui sont à aucun moment contrôlées, dont on ne sait pas exactement ce qu'elles deviennent, à quoi elles servent, etc. Ça vaut pour les médias. C'est des sommes gigantesques qui sont distribuées dans les aides publiques à la presse, sans qu'on sache ce qu'elles deviennent. Nous, on voit ce qu'elles deviennent quand elles vont à la presse de droite ou plus généralement à la presse mainstream. Elles deviennent, comme on disait tout à l'heure, de la propagande de droite. On pourrait tout à fait imaginer que la gauche réfléchisse à d'autres utilisations de cet argent, que ce soit pour remettre en place, soit pour renforcer un soutien au secteur associatif, soit pour imaginer tout ça. J'en parle
avec un peu de légèreté ici, parce que c'est assez complexe, mais des dispositifs de soutien aux pigistes, etc., voire dans nos rêves les plus fous, que le statut de pigiste revienne à un seuil, au seuil où il était il y a encore quelques décennies, c'est-à-dire un moment où il n'était pas la norme, finalement. Voilà. Et juste pour, ça c'est un minuscule détail, mais l'iconographie, les choix iconographiques qui permettent de montrer une Le Pen toujours souriante, un Bardella toujours très avenant et un Mélenchon toujours très menaçant, ça remonte pas en fait aux dernières législatives, hein, c'est beaucoup plus ancien que ça. Et là encore, je vous invite à vous pencher sur quelques couvertures du Monde et du Monde, enfin du Monde Magazine, et sur l'iconographie du Monde depuis pas mal d'années. C'est tout à fait intéressant. Et celle de Libé aussi.
C'est hyper compliqué de s'organiser et de lutter parce que effectivement il y a tout un pan de la profession qui est extrêmement précarisé. Ça c'est le bas, les outils de l'information, quoi. Donc on ne peut qu'encourager une organisation déjà à ce niveau, quoi. Il y a des associations de pigistes, il y a des syndicats. Il faut mener les luttes en interne aussi de ce point de vue-là, même si clairement le rapport de force n'est pas très bon en interne et que c'est pas facile. Mais il faudrait pas non plus faire croire qu'il y a un niveau haut des hiérarchies et en bas les soutiers, quoi. Il y a aussi quand même dans cette profession toute une, c'est ce que disent les travaux de sociologie, hein, toute une strate intermédiaire en fait très installée, qui est très confortable, hein, qui est en CDI, etc., et qui est en voie quand même d'embourgeoisement et de, avec une force d'inertie et de non-critique qui est quand même qui pèse lourd en fait dans la non-remise en question de l'ordre et aussi dans la normalisation de l'extrême droite, où il va quand même falloir secouer aussi les gens un peu de ce point de vue-là, quoi. Tu parlais du Monde, on parlait de Libé, les journalistes politiques ont un rôle majeur. Et voilà. Et les journalistes politiques, à un moment, ceux qui sont installés, il va falloir qu'ils acceptent de se regarder dans le miroir, quoi, et qu'ils interrogent leurs pratiques, qu'ils écoutent en fait ce qu'on dit depuis 30 ans, quoi, sur le fait que se focaliser, par exemple, en permanence sur les coulisses, etc., plutôt que de traiter du fond de l'extrême droite, plutôt que de traiter du fond de ce qui fait l'extrême droite, etc., c'est néfaste et ça encourage la banalisation.
Veulent tous faire un billard à trois bandes avec du sale et du moche, mais parfois ça foire, la boule noire atterrit dans la poche. 40 ans qu'on l'écrit, voilà, on en est là avec un seul candidat, Jordanuel Macronard est là. 20 piges de 11 septembre, de Syrie, d'attentats et de faits divers miteux en boucle tous les jours dans les médias. L'État nous fait les poches, prend le fric avec on se fait taper par les flics et insulter en prime sur le service public. C'est pas sur un scrutin, au quotidien il faut combattre, c'est pas un candidat, c'est les idées qu'il faut combattre. Les années 30 et leur odeur font le comeback. Normal que chez Taniaou soit le plan qu'il y a sur leur contact. 2016 on était antiraciste et pacifiste avec les mêmes paroles maintenant. Complotiste, antisémite, le monde penche à droite et nos rêves. Leur clan les ont pendus, rien n'a changé, je préfère la main tendue au bras tendu.
Tant qu'il y aura des Zemmour, des Bardella, ce genre de sbire, il y aura de quoi rapper. La lumière est mise, active ton vote, ça va déraper. Le rassemblement doit être rationnel, pas national, l'argumentaire est sans équivoque pour nos intérêts. Les urnes avant que ça brûle, ça urge, alors ça hurle, l'histoire se répète. C'est la même chanson, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi je kick fort et prends position comme il y a 20 ans. Si tu restes neutre, attends-toi à vivre un sale printemps.
Fuck l'identitaire jeunesse affiliée à Dolpha. J'rappe pour les SDF habillés en Cosla. On a franchi la ligne rouge comme Prada, Linea Rosa. La France est devenue un vivier chauffe à les bavures. Tous ces policiers adorent ça, ils veulent nous carchériser à l'eau froide ou nous carboniser à chaud de flamme. Calage verbal, femme à soral, j'crache des balles sur flamme nationale. Voter RN, c'est comme une fémène qui veut être femme à soral.
Laissez-moi faire, on a la méthode, un œil de moins pour le père à Marine. Y'a trop de couleurs, oui, dans nos ghettos. Nique les clones si le FN arrive. Chute normale, j'dis ce que j'pense. Alors ta gueule, j'ai mes distances, mais qui nous ressemble, qui nous rassemble. On a des racines, donc j'ai mes réseaux. Les racistes votent, nous aussi.
Et mon cœur est en Palestine.
On reste fiers, c'est nos principes.
Et mon cœur est en Palestine.
On arrive à lancer, on crée l'ouverture.
Yeah.
On te met un but, on a une astuce. On te pose un 8, mais j'en veux toujours plus. Ouais.
J'suis partout chez moi, sachant qu'ils ont fait partout chez moi. J'suis étranger d'après des étrangers qui viennent de chez moi. On m'a dit que j'étais un handicap. J'suis noir et fier comme tonton Nat. Réveille-toi, c'est dans nos pattes que l'ange de droite se déguise en diable. Tout marche à la peur, cousin, fais-toi pas avoir. T'es au RSA, la vie est chère, mais on nous montre du doigt.
ça part en couille. Fais ton job devant les urnes. Ils veulent la guerre, il faut que ça dure. Ce n'est qu'une marche avant la purge.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédeslutte.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.